Il est l'heure de retrouver notre émission mensuelle Un moment pour la Terre. C'est tout de suite avec ce générique.
Bonjour à tous, donc c'est France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence ce matin et on va vous parler de ce qui se passe sous nos pieds, donc ce qui se passe dans le sol, la vie qu'il y a dans le sol, comment il fonctionne, pourquoi il est utile au quotidien dans nos vies et comment on peut faire pour mieux le protéger au quotidien. Donc pour ça on va être trois ce matin à prendre la parole. Donc je suis accompagnée de Pierre Frappard,
donc je suis administrateur de France Nature Environnement depuis pas mal d'années. Je suis écologue et je travaille en particulier sur les insectes et entre autres sur les insectes du sol. Voilà, donc c'est à ce titre-là que je viens causer dans le poste communiqué.
Bonjour, donc moi c'est Lucie De Flessel, je travaille avec France Nature Environnement mais je suis stagiaire. Donc c'est dans le cadre de la validation de ma première année d'études supérieures. Et je travaille sur plusieurs sujets qui sont le gaspillage alimentaire et Sentinelle de la Nature. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler de Sentinelle de la Nature.
Et moi-même, du coup, Laetitia Longo, je suis salariée à l'association. Et je viens pour vous parler du projet qu'on porte en ce moment pour des sols vivants. Et je vous parlerai de comment vous pouvez vous impliquer en tant que bénévole, si vous le souhaitez. Voilà, donc pour commencer, je vais faire une rapide présentation de notre association. Donc France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence est la fédération départementale des associations de protection de la nature et de l'environnement pour les Alpes de Haute-Provence. Donc en tant que fédération, notre rôle c'est de former, informer et représenter les associations locales environnementales. Donc, c'est-à-dire qu'on porte la voix de toutes les associations auprès des pouvoirs publics, des élus, des médias et des autres représentants de la société civile. Et donc on agit pour la protection de l'environnement sur tout le département depuis 1973, donc depuis plus de 50 ans, et ce grâce à l'implication de nos bénévoles, de jeunes en service civique, de jeunes en stage et de salariés. Au quotidien, donc, nous participons activement aux différentes commissions consultatives départementales et aux débats publics relatifs aux enjeux environnementaux. Et on organise des animations auprès de tous les publics afin de sensibiliser à la protection de l'environnement dans le département. Et on accompagne les acteurs locaux, publics et privés, dans leur changement de comportement. Et enfin, nous travaillons à la rédaction de plaidoyers afin de défendre les intérêts de l'environnement dans les instances publiques. Voilà, donc je vais laisser la parole à Pierre qui va nous parler du sol et de son fonctionnement.
Oui, alors donc le sol, c'est bon, a priori tout le monde pense savoir ce que c'est. En fait, c'est un ensemble beaucoup plus complexe qu'on ne le pense en général. C'est en fait tout cet ensemble qui se constitue à partir d'une roche naturelle, on appelle la roche mère. Et c'est la constitution de tout un ensemble à la fois vivant et minéral, constitué de la dégradation de cette roche mère, sous l'effet en particulier des phénomènes chimiques et biochimiques qui se produisent notamment à partir d'en haut, je dirais, notamment à partir des éléments organiques qui sont issus de la végétation, les feuilles, etc., qui se décomposent. Donc ce processus de constitution d'un sol est extrêmement long. Il peut prendre plusieurs siècles, voire pour certains cas plusieurs millénaires. Donc c'est un patrimoine, enfin, c'est un élément qui était très long à se mettre en place. Et on a en fait ce sol donc est organisé en horizons, ce qu'on appelle des horizons, depuis la roche mère au plus profond jusqu'à la litière en surface, la litière étant constituée des éléments organiques, des feuilles, etc., qui se décomposent au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure qu'on descend vers la roche mère, on voit s'organiser ce sol dans différents horizons et différentes couches. Hein, qui sont caractéristiques et qui devraient, dans l'idéal, ne pas être bouleversées parce que chacun a son propre mode de fonctionnement propre et son organisation particulière. On peut dire un mot en particulier de l'humus, dont on parle beaucoup, hein, qui est un mot assez connu, qui est une substance très, très multiforme, hein, parce qu'on dit l'humus au singulier, mais on devrait plutôt dire les humus, qui se constitue donc à partir de la dégradation des matières organiques et qui permettent justement, qui sont un élément essentiel de la fertilisation, de la fertilité des sols. Alors, premièrement, on parlait beaucoup, justement, je parlais beaucoup des éléments vivants. Alors, on peut parler, parce que tout ce processus de transformation de la litière au sol vivant, à partir de, et aussi de la dégradation de la roche-mère, tout ça se produit donc sous l'effet de phénomènes biochimiques qui, évidemment, sont le résultat d'une activité d'organismes vivants. Alors, en fait, la vie du sol est concentrée à 90% à peu près dans les 15 premiers centimètres. Ce qui est en dessous, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien, hein, il continue à y avoir, mais en fait, l'essentiel est dans les 15 premiers centimètres, d'où l'importance de ne pas trop bouleverser cette organisation. On y reviendra peut-être, mais c'est un des problèmes qui est posé par les labours, et en particulier les labours profonds dans les sols agricoles. Alors, par commodité et aussi avec beaucoup d'approximations, on classe ces organismes selon leur taille. Hein, alors pour citer la microflore, microfaune, c'est-à-dire les bactéries, les micro-organismes, tout ce qui est invisible à l'œil nu, ce qu'on va appeler la mésofaune, hein, c'est des organismes vivants, essentiellement animaux, qui vont d'une dixième de millimètre au millimètre. Hein, donc des acariens, des araignées, des petits insectes, des colamboles, des nématodes, c'est-à-dire des petits vers, etc. Ce qu'on appelle une macrofaune, alors si on a macrofaune, c'est les animaux plus importants, dont les vers de terre, hein, alors donc qui sont un élément peu connu finalement, parce qu'on dit le vers de terre, mais en fait on a une centaine d'espèces de vers de terre différents en France, hein, donc c'est quand même assez considérable. Et en termes de biomasse, donc ça représente 1 à 3 tonnes par hectare, donc c'est absolument considérable. Et il y a aussi des insectes, des fourmis, des araignées, etc. Et puis il y a aussi la mégafaune. Hein, alors, méga, quand on parle de taupe ou de campagnole, voilà, on s'imagine la mégafaune, hein, on n'est pas dans les dinosaures ou dans les éléphants, quoi, hein, mais ce sont tous ces petits animaux qui creusent des galeries dans le sol. Alors on peut aussi distinguer différentes couches, ces animaux vivent dans des milieux, dans des endroits différents. Alors il y a ce qu'on appelle les épigées, c'est-à-dire ceux qui vivent à la surface, ceux qui vivent, les hypogées ou endogées, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'intérieur du sol. Hein, voilà, donc on peut trouver des classifications de ces organismes. Et puis il faut y ajouter, bien entendu, aussi, qui fait partie de la vie du sol, tout ce qui est les plantes, en particulier les racines, hein, et de très nombreux organismes symbiotiques, c'est-à-dire ceux qui vivent avec, hein, qui vivent avec ces plantes. Alors c'est souvent des bactéries, mais ça peut être aussi des animaux ou des champignons, sachant que les champignons aussi occupent une place très importante avec leur mycélium dans le développement du sol. Alors, on a aussi dans ces animaux, dans ces organismes vivants, des rôles différents. Hein, il y a ce qu'on peut appeler les décomposeurs, à différents stades de décomposition, c'est-à-dire c'est eux qui décomposent la matière organique, qui la minéralisent, hein, qui permettent de l'incorporer au sol. Là, on va avoir les colamboles, hein, qui sont de très petites bestioles, à peu près des insectes, des cloportes, des acariens, de très nombreux insectes. On a les vers de terre, qui sont un peu les ingénieurs et les terrassiers de tout ça, hein, puisqu'ils brassent, ils remontent les matières en profondeur, en surface, ils créent des galeries qui permettent aussi la circulation de l'eau. Et puis il y a beaucoup de prédateurs, parce que tout ça, ça se mange. Hein, donc il y a aussi des nématodes, des parasites, des araignées, des acariens, de nombreux insectes, hein, qui aussi mangent tous ces organismes vivants. Donc on a un véritable écosystème complet à l'intérieur du sol, comme pieds qu'on marche, sur lesquels on marche à peu près tous les jours, sauf quand on est évidemment dans une construction ou sur le goudron, hein, mais dès qu'on a, dès que le sol n'est pas revêtu, on a à un stade plus ou moins important, mais on a toujours une richesse beaucoup plus importante du sol. Voilà, alors, et ce sol donc a un fonctionnement propre, mais il y a aussi ce qu'on appelle des services écosystémiques. Il rend aussi des services écosystémiques. Alors, ce qu'on appelle services écosystémiques, c'est les services que nous rend la nature. Hein, alors, on va les citer un petit peu, bon, on pourrait y revenir en détail sur chacun, mais je crois que ça nous prendrait beaucoup de temps. La captation du carbone, et donc on sait aujourd'hui que pour la régulation du climat, c'est un élément important. Dans les sols agricoles, la fertilité agronomique, hein, c'est la richesse biologique des sols qui les rend fertiles. Alors bien sûr, on peut les considérer, on a trop souvent considéré le sol comme un substrat mort, hein, inerte, sur lequel on pouvait apporter des fertilisants. Mais on s'aperçoit de plus en plus aujourd'hui que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Hein, donc cette fertilité agronomique est évidemment un facteur important pour l'alimentation, parce que c'est ça qui nous permet de nous nourrir. Le sol joue un rôle important aussi dans l'épuration de l'eau et dans le stockage. Quand on a des sols plus actifs, hein, et plus profonds, on a évidemment un meilleur stockage de l'eau, une meilleure régulation. Et on voit là qu'effectivement, sur des grandes surfaces, on a la prévention des inondations. Hein, ça intervient. La qualité des sols est un facteur qui n'est pas négligeable. C'est aussi un support de biodiversité. Alors là, évidemment, on va dire, la biodiversité, à quoi ça sert? Alors ça, c'est un autre débat, on pourrait y revenir. Hein, mais la biodiversité, c'est la multitude des êtres vivants. Et c'est vrai que dont on ne connaît pas le rôle réel de chacun. Alors c'est vrai que les sols eux-mêmes, d'ailleurs, sont insuffisamment étudiés. Donc on a aussi beaucoup de lacunes dans la connaissance, non seulement de ce qui les compose, mais de leur fonctionnement, même si on avance, hein, mais bon, on continue quand même à avoir beaucoup de lacunes. Et donc le sol, en fait, est le support de toutes les activités humaines et de tous les milieux naturels. Alors on pourra distinguer effectivement, bon, des sols urbains, effectivement, alors ici, autour de la maison de fréquence mistrale, hein, on va trouver, y compris sous les haies du petit des parterres qui sont à l'extérieur, sur les bordures de route, etc., il y a des sols, même s'ils sont minces, pauvres, hein, quelquefois pollués, hein, mais on a des sols aussi. On a des sols agricoles, hein, j'en parlais déjà un petit peu précédemment. Les sols forestiers ont des spécificités aussi du fait de l'importance des matières organiques issues des arbres. Et puis on peut avoir des sols. Alors le terme de sol naturel est un peu ambigu parce qu'il regroupe, en fait, d'abord il n'y a plus beaucoup vraiment de sol vraiment naturel. Hein, parce que la main de l'homme a mis un pied à peu près partout. Et puis aussi parce que donc on a donc tous les sols ou à peu près ont été artificialisés. Mais on va retrouver après même des sols, enfin ce que j'appelle, je ne sais pas si le terme est retenu, mais des sols un peu interstitiels. Hein, dans des fentes de rochers, même où poussent quelques plantes grasses, elles poussent sur un sol, même s'il est peu épais peu, et occupe une petite surface. Alors, en quelques mots, essayer de vous dire aujourd'hui, puis finalement, pourquoi on parle en particulier des sols, ben c'est parce qu'ils sont menacés. Hein, alors, quels sont les types de menaces? Alors, l'érosion. Hein, on voit quand on a de fortes pluies ou même des vents forts, on avait il y a quelque temps, vous savez, ce sable qui nous arrive dit du Sahara, c'est effectivement issu d'une érosion éolienne, donc par le vent, de sols qui sont très loin de chez nous et qui arrivent jusqu'ici. Donc ces éléments sont perdus pour leur point d'origine, quoi, hein. Et ils arrivent chez nous sous forme d'éléments très fins qui sont des constituants de fertilité, même dans les zones subdésertiques. Quoi. Donc, et nous, c'est pareil, le vent aussi emporte un certain nombre de sols, mais surtout l'eau. Hein, donc, quand on a de très fortes précipitations, on le voit d'ailleurs, hein, des ravines importantes qui font descendre en particulier les éléments fins, qui sont des éléments indispensables au fonctionnement des sols. Alors, il y a aussi des pratiques agricoles souvent inadaptées, des sols qui sont épuisés par une agriculture intensive, par les monocultures, par des fertilisations qui ne sont pas toujours bien conduites, hein, qui détruisent en fait une partie de la faune et des champignons du sol. Donc c'est aussi un élément de plus en plus important. Un facteur extrêmement important aussi, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'un sol est recouvert, hein, d'urbanisation, la voirie, tous les équipements nécessaires, enfin, à la ville et à son fonctionnement, font disparaître les sols. Alors qui sont éventuellement récupérables, mais comme on disait tout à l'heure, on a les sols mettent des fois plusieurs siècles à se reconstituer, donc recréer un sol quand il a disparu, c'est quand même un travail de longue haleine. Il y a de très nombreuses pollutions. Alors, des hydrocarbures, hein, à proximité des voies de communication, hein, il y a des hydrocarbures issus des échappements, mais aussi du frottement des pneus, hein, c'est aussi un élément pas négligeable, des pollutions chimiques multiples et variées, des pollutions bactériologiques éventuellement, qui peuvent poser des problèmes d'équilibre dans la biologie des sols, de très nombreux pesticides, hein, qui sont épandus et dont beaucoup sont trop rémanents, dont on connaît mal l'évolution et les produits secondaires. Il y a un problème à l'échelle planétaire qui est important, qui nous ne concerne pas vraiment, c'est la salinisation des sols, qui est important notamment à proximité des rivages, quoi, hein, puisqu'on a des remontées salines, notamment du fait des excès d'irrigation. On a des remontées salines à l'intérieur des terres agricoles, donc évidemment les sols salés perdent quand même beaucoup de leur fertilité. La sécheresse est un facteur aussi, parce que tous ces animaux et tous ces organismes qui ont besoin d'eau, donc quand il n'y a plus d'eau, ma foi, tout ça meurt lamentablement, quoi, je dirais. Alors moi, ce que je dirais, c'est que le patrimoine, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, le sol, c'est un patrimoine de plusieurs millénaires qu'il faudrait conserver. Et c'est, donc, à l'échelle humaine, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. D'où les nécessités de le préserver, de mieux le connaître aussi, donc les études à lancer, là aussi, les financements et le temps manquent. Hein, voilà. Donc on y reviendra tout à l'heure. Il faut simplement penser qu'il faut entre 1 et 10 siècles pour créer un centimètre de sol. Hein, donc, voilà. Alors on va parler Laetitia va nous parler un peu des questions de réglementation, hein, des outils de protection des sols actuels.
Oui, donc je vais vous parler de réglementation, mais avant ça, du coup, on va faire une pause musicale et on revient tout de suite après.
Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans. On mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux ? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps. Enfant, enfant, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux ?
Oui, moi je voulais juste un mot sur cette chanson qui date du début des années 60. Les questions dont nous parlons là, du sol mais aussi du reste, la prise de conscience, il y a longtemps qu'un certain nombre de gens, chanteurs ou autres, en ont pris conscience. Malheureusement, je dirais, on n'avance pas très vite, quoi. On voit que les problèmes sont toujours là, quoi.
Mais enfin, pour qu'il reste des chants d'oiseaux, il faut passer par des réglementations. Et c'est encore assez peu mis en place aujourd'hui, mais on est là pour faire en sorte que ça avance. Donc, par exemple, dans la loi, aujourd'hui, il n'y a pas de loi concrète pour protéger le sol, à l'inverse de l'eau et de l'air, qui sont considérés comme des biens communs et qui sont protégés par le Code de l'environnement. Donc, il reste à faire un travail sur le sol pour qu'il soit considéré comme un ensemble écologique à protéger. Dans les documents d'urbanisme, il y a aussi quelques pistes à explorer pour une meilleure prise en compte du sol, comme par exemple les zonages dans les PLU ou les SCOT, ou encore on entend se développer le concept de trame brune dans les documents d'urbanisme. Donc c'est sur le même principe que les trames vertes et bleues, et c'est pour prendre en compte et assurer une continuité écologique des sols. Donc c'est important et c'est en train de se développer. Voilà, donc c'est des sujets assez complexes qui mériteraient une émission entière pour pouvoir en parler. Mais là, on n'aura pas le temps. Et au niveau européen, donc en avril 2024, le Parlement européen a adopté sa position sur la proposition de directive relative à la surveillance et à la résilience des sols. Donc c'est le tout premier acte législatif spécifique au sol au sein de l'Union européenne, donc ce qui est déjà une petite avancée. Et il en ressort que les députés sont favorables à un objectif global de qualité des sols d'ici à 2050, et ils soulignent la nécessité d'une définition harmonisée de la qualité des sols, ainsi que d'un cadre de suivi complet et cohérent pour favoriser une gestion durable des sols et assainir les sites contaminés. Je vous partage cette citation du rapporteur Martin Hoščík de Slovaquie, qui a déclaré après ce vote au Parlement européen « Nous sommes enfin sur le point de parvenir à un cadre européen pour protéger nos sols de la dégradation. Sans sols de bonne qualité, il n'y a pas de vie sur cette planète. Les moyens de subsistance des agriculteurs et les aliments dans nos assiettes dépendent de cette ressource non renouvelable. C'est pourquoi il est de notre responsabilité d'adopter le premier acte législatif européen visant à surveiller et améliorer la qualité des sols. » Voilà, donc une avancée à suivre de près pour les prochains mois. Et sinon, concernant les solutions, pour résumer, comment faire pour mieux protéger les sols et mieux le considérer. Donc on a dit améliorer la prise en compte des sols dans les documents d'urbanisme, mais aussi dans la loi et dans le code de l'environnement. Ça passe aussi par soutenir les pratiques agricoles durables, donc pour conserver des sols vivants qui ne sont pas laissés à nu et qui permettent de garder leur vie. Et travailler à la restauration des sols et à une gestion plus douce de la forêt.
Oui, alors à propos de la forêt, donc quelques mots. Hein, c'est-à-dire qu'on a actuellement, la gestion forestière est assez violente en général vis-à-vis des sols, par l'érosion, le tassement, par des engins souvent trop lourds. bien que le poids ne soit pas le seul facteur de dégradation, les engins les plus lourds ne sont pas forcément ceux qui font le plus de dégâts. Hein, mais un autre facteur important, c'est le travail dans le sens de la pente. Hein. On a souvent, alors évidemment, c'est plus facile et c'est moins dangereux de travailler dans le sens de la pente qu'en travers, mais c'est beaucoup plus destructeur. Hein, on l'a dit déjà précédemment, parce que ça accentue effectivement l'érosion, les ravinements, etc. Le problème aussi, c'est la mise à nu du sol par des coupes rases trop importantes et trop systématiques. Parce que en fait, un sol nu est soumis aux différents à la pluie, hein, la pluie et au soleil, qui sont des facteurs pour des sols qui se sont constitués sous l'abri de la végétation, sont un facteur de dégradation important. Donc, on a aussi un manque de restitution organique, souvent quand les bois sont exportés totalement, comme c'est quelquefois le cas pour faire du bois de chauffage, enfin de la biomasse, comme on dit. Et donc les sols forestiers sont aussi, même si on les considère comme des sols naturels, hein, donc, sont aussi soumis à de fortes pressions.
Et en tant que citoyen, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour protéger le sol? Si vous avez un jardin, par exemple, vous pouvez pratiquer le jardinage raisonné, laisser des zones moins tondues pour laisser la biodiversité s'épanouir. Vous pouvez faire du paillage, du compost avec vos déchets verts et vos déchets de cuisine pour faire retourner la matière organique dans votre sol et que votre jardin reste vivant. Et si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez valoriser vos déchets verts et vos déchets de cuisine en faisant du compostage. Normalement, aujourd'hui, les communes doivent proposer des solutions de tri des biodéchets à tous les habitants. Donc, si ce n'est pas le cas, vous pouvez les solliciter pour qu'ils développent ces solutions. Et en tout cas, c'est un geste que vous pouvez faire pour valoriser la matière organique et la faire retourner au sol. Et si vous avez envie de vous impliquer encore plus, vous pouvez devenir bénévole pour notre projet Sol Vivant. Et c'est une transition toute trouvée pour vous parler du projet qu'on porte en ce moment. Donc, le projet est nommé Sol Vivant et il a vu le jour il y a de ça 2 ans dans la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et le projet est né du constat que les sols sont les parents pauvres de la protection de la nature, que la connaissance scientifique est récente à ce sujet, mais qu'il faut continuer d'apprendre pour mieux les comprendre et mieux les protéger. Parce qu'on sait que l'écosystème est clé dans l'adaptation au changement climatique, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc le projet a pour objectif de sensibiliser et diffuser la connaissance auprès du grand public et aussi auprès des décideurs et de tous les acteurs locaux. Donc c'est l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui finance ce projet à l'échelle de la région. Et nous sommes 8 associations mobilisées pour mettre en œuvre et faire vivre le projet Sol Vivant. Donc il y a donc toutes les fédérations départementales de France Nature Environnement, dans le 04, dans le 83, dans le 84, je l'ai déjà dit, et le 05, et au niveau de la région, donc FNE-PACA. Et à cela s'ajoute Collinéo, qui est une association qui œuvre pour l'éducation à l'environnement et qui œuvre à la réhabilitation du Conservatoire des Restanques à Marseille. Il y a aussi la CIVAM-PACA, qui est la Fédération des agriculteurs bio et d'autres groupements agricoles de la région. Et enfin, l'AFES, qui est l'Association française pour l'étude du sol. Donc, avec toutes ces associations, depuis 2 ans, nous avons avancé sur le projet sur 5 axes, qui sont une boîte à outils, des actions de sensibilisation, un réseau d'ambassadeurs des sols, la construction d'un plaidoyer et la construction de parcours de découverte des sols dans toute la région pour tous les publics. Donc pour vous préciser un peu, la boîte à outils, c'est en fait un outil qu'on a développé sur Internet qui prend la forme d'un site. Donc vous pouvez retrouver à l'adresse www.pourdessolsvivants.fr et vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour comprendre les sols et comprendre comment vous pouvez agir. Nous avons également mené de nombreuses actions de sensibilisation, notamment avec une journée dédiée aux sols vivants à Marseille, à destination du grand public. mais aussi on tient des stands lors d'événements comme la fête des sciences à Manosque bientôt et des animations auprès des scolaires que nous avons réalisées. Ensuite, le réseau d'ambassadeurs des sols, il permet de rassembler des bénévoles, qu'ils soient citoyens, experts ou acteurs du territoire, pour travailler ensemble à mener ce projet et à sensibiliser autour des sols. Et nous sommes en train de construire un plaidoyer pour aborder les différentes thématiques qui nous semblent importantes à considérer pour les sols. Et enfin, les parcours de découverte des sols, ce sera dans toute la région, donc il y en aura un dans chaque département. On a déjà creusé les fosses pédologiques et fait analyser les sols, et là on est en train de construire du coup les parcours d'animation pour les grands publics. Et vous pouvez venir voir tout ça très prochainement, donc restez connectés pour être tenus au courant de l'animation de ces parcours. Et donc je le rappelle, sur le site www.pourdessolsvivants.fr. Voilà, donc on peut faire une petite pause musicale et après on fera une petite conclusion.
Il y a tant, il y a tant, il y a tant, tant à faire, tant à faire, tant à faire. Faire un monde, faire un monde, faire un monde. Monde meilleur, monde meilleur, monde meilleur. Pourquoi on change pas? Pourquoi on va pas jusqu'au bout? Pourquoi je ne comprends pas? Je crois ce monde est fou. Dis-moi que fais-tu toi?
Moi, qu'est-ce que je peux faire?
Toi pour aider ce monde.
Toi, qu'est-ce que tu veux faire?
Ce monde est ton chez
toi.
Il nous reste quelques secondes.
Trois petits pas, trois petits pas, trois petits pas. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. Trois petits pas, trois petits pas, trois petits pas. Pas le choix, pas le choix, pas le choix.
Pourquoi on change pas? Pourquoi on va pas jusqu'au bout?
Pourquoi je ne comprends pas? Je crois ce monde est fou.
C'est si beau, beau comme tout, beau comme tout, beau comme tout.
Tout est là, tout est là, tout est là. Là pour nous, là pour nous, là pour nous.
Pourquoi on change pas? Pourquoi on va pas jusqu'au bout? Pourquoi je ne comprends pas?
Je crois ce monde est fou.
Oui, alors un petit peu d'optimisme, hein, essayer de positiver, comme on dit. Oui, alors en conclusion de notre propos sur les sols, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu ce que j'ai insisté sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que le sol est un patrimoine, hein, au même titre que bien d'autres, et qu'à ce titre-là, il faut le prendre en considération de façon beaucoup plus importante, sachant que quand on parle d'environnement, on parle beaucoup du climat. Hein, du climat et donc de l'énergie, puis finalement on finit par ne parler plus que de ça. Donc en fait, les problèmes environnementaux aujourd'hui, la question de la transition, elle est une transition pas seulement énergétique, mais écologique, de façon beaucoup plus vaste. Elle doit inclure la protection du climat, évidemment, mais aussi la préservation de la biodiversité et des sols. Et tout ça, c'est indissociable et à considérer d'égale importance. Hein, voilà, donc... Sans arrêter de s'intéresser au climat, il est capital de s'intéresser aussi au reste.
Donc voilà, moi c'est Lucie. Comme je vous ai dit au début, je suis là pour parler de Sentinelle de la nature. Alors ça n'a pas un rapport direct forcément avec le sol. Sentinelle de la nature, donc c'est une application et un site internet pour recenser des atteintes portées à l'environnement, mais également des actions faites positivement pour l'environnement. Donc je vais vous donner quelques exemples. Surtout que là, on est en plein milieu de l'été. Donc si vous êtes locaux ou touristes, vous allez en balade ou en rando, vous pouvez tomber, sur des décharges sauvages, une pollution de l'air ou une pollution de l'eau, ou vos voisins peut-être qui brûlent ces déchets verts alors que c'est illégal. Et vous pouvez prendre une photo, localiser donc où vous êtes et faire un descriptif de ce que vous voyez, de ce que vous êtes témoin. Et nous, après, nos bénévoles ou les salariés, on va vous accompagner dans les démarches à suivre et les conseils à qui s'adresser. Parce que notre but, c'est que ce soit les responsables, donc par exemple les mairies, les agglomérations, les communautés de communes, etc., qui fassent leur travail, entre guillemets. Comme je vous disais, on peut aussi recenser des actions faites positivement. Donc imaginons, vous êtes dans un camping et ils ont fait une niche, un nichoir à chauve-souris, un jardin coopératif. Vous pouvez aussi le signaler, et nous après on va le médiatiser, et ça fait pour valoriser et pour donner des idées à d'autres personnes qui aimeraient faire des choses positives pour l'environnement mais qui n'ont pas forcément d'idées. Et ce qui est bien avec Sentinelle de la nature, c'est que c'est disponible partout en France et aussi à Mayotte et en Guyane. Donc que vous soyez locaux ou touristes, ou que vous partiez en vacances quelque part en France, et vous pourrez toujours l'utiliser dans la région où vous serez. Ensuite, je vais vous parler des prochains événements à France Nature Environnement. Alors déjà, on va faire une pause estivale à la radio, donc au mois d'août, on ne sera pas là. Mais on revient en septembre, ne vous inquiétez pas. Samedi 7 septembre, il y a un forum des associations à Manosque et au Mai, et nous y serons. Mais également le dimanche 8 septembre, donc ça sera le forum des assos à Digne. Donc vous pourrez venir à notre rencontre et échanger avec les bénévoles et les salariés pour en savoir plus sur notre association, sur les projets, comme le projet du sol qu'on vous a parlé il y a même pas 2 minutes. Ensuite, mercredi 18 septembre, il y a un chantier butinerie qui est ouvert au public. Donc c'est de 9h à 12h30. Donc c'est à Villeneuve. En fait, la butinerie, c'est un espace de préservation de la biodiversité. On a par exemple une mare, un potager, une spirale aromatique en pierre sèche, une microforêt. Et c'est donc pour montrer qu'il est simple de mettre en place des espaces pour la biodiversité, même si l'espace n'est pas forcément grand. Mais la butinerie, c'est aussi un aménagement pour accueillir du public et des scolaires. Donc, pour parler du sol, parler des arbres, pour faire des activités, pour que les enfants ou même les adultes mettent la main à la pâte pour se reconnecter avec la nature. À la semaine du 23 septembre, il y aura une installation d'un passage à hérisson à la butinerie. Alors le jour n'est pas encore décidé, donc pour ça vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et on vous tiendra au courant. Mais aussi sur le site internet de France Nature Environnement 04.fr. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Pas forcément de thèmes précis, mais vous pouvez être bénévole juste pour Sentinelle de la Nature, juste pour les sols. Enfin, c'est vous en fait qui décidez par rapport à ce qui vous intéresse le plus. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de formation spécifique, vous pouvez venir comme vous êtes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter avec l'adresse mail contact@fne04.fr. Voilà, on vous attend plus ou moins nombreux. Et même si vous ne voulez pas être bénévole, mais mettre un peu la main à la pâte ou juste nous rencontrer, bah, n'oubliez pas les forums des assos. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée et à bientôt.
Merci à vous et on retrouve cette émission sur notre site www.frequencemistral.com. Merci pour ce bon moment, un moment pour la Terre. Au revoir.